Bonsoir, bienvenue les 18h, c'est l'heure du journal en français présenté par Diallo Mariama Kenda. Vous êtes à l'écoute du studio Kalangou et voici ce qui fera l'essentiel de l'actualité. Les députés ont examiné et adopté le projet de loi portant création et fonctionnement de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à l'ICIA. C'était ce lundi à l'Assemblée nationale. Clôture ce matin d'un forum intitulé l'après-mine dans le département d'Arlit. Objectif, examiner la question du réaménagement des sites miniers une fois que leur exploitation sera terminée. Les conclusions dans ce journal. 2 millions de personnes ont eu besoin d'une assistance alimentaire en 2016 au Niger, comme le rapporte le bulletin mensuel du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU au Tchad à Niamey. Nous revenons sur la situation humanitaire à Difa avec le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, une institution très présente dans cette région. Enfin, la partie magazine de ce soir sera consacrée à l'évaluation de la campagne agro-silvo-pastorale dans la région du Difa. À l'Assemblée nationale, les députés ont examiné et adopté ce lundi le projet de loi portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à l'ICIA. Le président de la ICIA, Issoufou Bourayma, s'est réjoui de la confiance et l'intérêt que les élus nationaux ont accordé à son institution.
La lutte contre la corruption est un combat qui est mené en vue de créer les conditions de développement économique et social de notre pays. Toutes choses qui sont des préoccupations qui sont justement à la charge de tous les députés du Niger. Et c'est pour cela que je constate avec beaucoup de satisfaction qu'ils ont tous contribué positivement et que même les critiques les plus méchantes étaient constructives. Le texte vaut ce qu'il vaut. C'est à nous de sortir toute sa substance également. C'est certainement pas le texte idéal que certains idéalistes auraient voulu voir. Chacun fait ce qu'il veut, sa législation, à la mesure de ses préoccupations et à la mesure de ses capacités également. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut considérer que la ICIA vient d'être dotée d'un texte qui va lui permettre de mener à bien ce combat. Ce phénomène gigantesque qu'est la corruption va trouver en face de lui des armes à la hauteur de sa dangerosité.
Vous venez d'entendre le président de la ICIA, Issoufou Bourayma. Les députés de l'opposition, en l'occurrence ceux du groupe parlementaire Zamzam Lumana, ont préféré s'abstenir lors du vote du présent projet de loi. Selon le député national, Maître Nyandou Karimou, du groupe parlementaire Zamzam Lumana, les autorités nigériennes auraient dû ériger la ICIA en un organe tout simplement indépendant et pleinement autonome.
Nous devons nous inquiéter parce qu'il s'agit de la gestion du bien public. Il s'agit donc de la transparence. Il s'agit de l'enrichissement illicite. Voilà pourquoi nous sommes, parce que ce sont les deniers de l'État. Même si nous ne sommes pas donc aux affaires, c'est-à-dire que nous ne sommes pas être à mesure donc d'être corrompus ou d'être dans des places où on va nous corrompre. Nous avons le souci de savoir que les deniers publics sont bien utilisés.
Honorable Nyandou Karimou, faites partie de ceux qui pensent que la ICIA est créée tout simplement pour traquer des opposants.
Mais si tel n'est pas le cas, il faut l'ériger en organe indépendant, sans que ça ne soit sous la pression, sans que ça ne soit rattaché à aucun organe politique en particulier. Et je trouve que le rattachement au président de la République, c'est l'organe le plus politique. Nous nous sommes abstenus parce que simplement, nous n'admettons pas que dans le texte tout est mauvais. Non, nous avons voulu simplement que les gens aillent jusqu'au bout de leur logique en faisant donc de cet organe un organe, une autorité indépendante. Parce que c'est l'aspect le plus important. Tout le reste, ce ne sont que les conséquences. Dès lors qu'on n'a pas érigé un organe indépendant, nous émettons une réserve parce qu'elle ne va pas atteindre l'objectif pour lequel il a été créé.
Propos recueillis par Mokhtar Amadou. Du 26 au 27 novembre 2016, s'est tenu un forum intitulé « L'après-mine » dans le département d'Arlit. Objectif, examiner la question du réaménagement des sites miniers une fois que leur exploitation sera terminée. Au terme de ce forum, organisé par une organisation pour la protection de l'environnement ONG Agirman avec l'appui financier de la Fondation Rosa Luxembourg, des recommandations sur le réaménagement des sites miniers après les exploitations ont été formulées. Voici un extrait des recommandations lues par Salifou Koulibaly, l'un des participants.
Le forum recommande la vulgarisation du code minier dans l'ensemble du territoire national, la vulgarisation de la politique de réhabilitation des sociétés minières à l'endroit des populations du pays. Troisièmement, la mise en place d'un organisme indépendant chargé du suivi du réaménagement des sites pour la région, compte tenu de l'abandon de l'exploitation de la mine d'Azelik dans le département d'Ingal. Considérant l'état désastreux de l'environnement autour de cette mine, nous demandons à l'État d'engager le réaménagement du site. Considérant la suspension des travaux de l'exploitation du Mouraren, considérant les incertitudes qui caractérisent cette exploitation, nous demandons au groupe Areva de mettre fin à cette situation. Le forum recommande à l'État la mise à jour des textes et conventions minières, recommande à l'État l'utilisation des énergies renouvelables afin de préserver les zones connexes. Le forum recommande le suivi d'un fonds des générations futures alimenté par les ressources minières.
Pour le maire de la commune urbaine d'Alit, Maoli Abdourahman, ce forum tombe à point nommé.
C'est un sujet dans lequel nous, au niveau de la commune urbaine, on se retrouve. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la commune urbaine d'Alit est située, en tout cas, entre deux sociétés industrielles. Je pense bien que ce séminaire, en tout cas, tombe à point nommé parce que, justement, à l'époque où nous sommes aujourd'hui, il va falloir poser la question de l'après-mine, qu'est-ce qu'il y allait de faire. Je pense que c'est extrêmement important ce qui s'est développé, ce qui a été développé. Notre vision, en tout cas, elle est d'ailleurs renforcée, en tout cas, par ce forum, parce que depuis 2011, quand en tout cas, on a commencé à poser les jalons au niveau de la commune urbaine d'Arlette, les thèmes après-mine, en tout cas, nous préoccupent davantage. Et nous sommes en train de nous poser la question, après les mines, qu'est-ce que nous allons devenir? Donc, en tout cas, ce forum vient encore une fois renforcer notre thèse que nous avons l'espoir de vivre après les mines, Inch'Allah, parce que les mines, elles ont une fin.
Propos recueillis par notre correspondant à Agadez, Moussa Maman. À Agadez, au nord du pays, les migrants qui partent en direction des pays du Maghreb et de l'Europe sont logés dans des maisons privées appelées ghettos. Tarnane Fouda Ahmad a visité l'un de ces ghettos.
Nous sommes à la lisière site de la ville. La concession, ou comme on dit ici, la cour, fait à peine 400 mètres carrés. On y trouve une petite chambre et un hangar en paillote dont les murs sont construits en banco. Les occupants sont tous des candidats à la migration. Certains attendent longtemps, des semaines ou parfois plus, dans la clandestinité que leur passeur, qui est aussi leur logeur, les amène vers Dirkou, dernière étape avant la Libye. Ici, dans les ghettos, les conditions d'hébergement sont plus que spartiates. Certains des migrants dorment à même le sol à la merci des piqûres des escorpions. Il y a bien une douche, mais elle souffre de sérieux problèmes d'entretien. D'ailleurs, au milieu de la cour, sous un arbre, sont installés des canaris et un bidon de 25 litres, mais ils ne sont alimentés que deux fois par jour. Myriam, originaire de Serekunda en Gambie, s'indique de la promiscuité entre hommes et femmes dans cette petite chambre sans électricité qui n'a qu'une seule fenêtre. Ces conditions de vie difficiles n'empêchent pas certaines de faire des affaires. Kabirou établi, c'est-à-dire qu'il vend au détail tout ce qui peut améliorer la vie quotidienne. L'arrivée de ces migrants dans son quartier lui a permis d'augmenter son chiffre d'affaires. Même effet d'aubaine pour Emmanuel, un Nigérian. Il gagne un peu d'argent grâce aux petits panneaux solaires portables qu'il a achetés. Cela lui permet de recharger la batterie des téléphones de ses camarades d'infortune. Et cela a un coût 500 francs CFA. Ainsi va la vie dans ce qu'on appelle à Agadez les ghettos. Tarnane Fouda Ahmed depuis Agadez pour les studios Kalangou.
Je l'annonçais dans les titres, 2 millions de personnes ont eu besoin d'une assistance alimentaire en 2016 au Niger, comme le rapporte le bulletin mensuel du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU au Tchad à Niamey, et ce en dépit d'un léger excédent céréalier réalisé à l'issue de la campagne agricole. 147 millions de dollars, c'est la somme dont ont besoin les ONG humanitaires pour financer l'aide alimentaire. Selon le porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, Rabiou Omarou Dadi, Difa bénéficie d'une attention particulière. Il est au micro de Adama Dawaki.
N'oublions pas que Difa, comme beaucoup d'autres régions du Niger, est une région aussi qui connaît des déficits chroniques en matière de production agricole ou de production pastorale. À cela, si on rajoute le fait que le conflit a quasiment arrêté les flux commerciaux, que certaines mesures prises par les autorités ont conduit aussi à réduire les possibilités d'échanges commerciaux, mais évidemment, ces mesures ont aussi un impact sur la capacité des populations à s'autosuffire, à se prendre en charge. Parfois, certains chiffres mentionnent une personne sur cinq dans la région de Difa qui est une personne déplacée. Les chiffres de cette année sont éloquents. Nous avons assisté en vivre plus de 100 000 personnes. Je dirais qu'on va dans une plutôt proportion de 110 000 personnes qui ont reçu à plusieurs reprises des rations alimentaires. C'est vraiment une ration alimentaire riche et diversifiée. Nous y ajoutons aussi des compléments nutritionnels pour les enfants, pour aider à la prise en charge des enfants qui sont souvent malnutris.
C'était le porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, Rabiu Oumarou Dadi. Nous reviendrons sur la situation alimentaire à Difa dans la partie magazine de ce journal. Donner une chance au dialogue, c'est en ces termes que l'Union des scolaires du Niger explique dans une déclaration rendue publique ce matin à son siège. La décision prise la semaine dernière de suspendre son mot d'ordre de grève. Aussi, dans sa déclaration, l'USN affirme qu'il entend faire en sorte que les engagements pris soient tenus. Grande figure de l'histoire politique du XXe siècle, Fidel Castro, l'ancien président du Cuba, est décédé le vendredi 25 novembre 2016 à 90 ans. Critiqué, détesté ou admiré, voire adulé, celui que l'on a appelé le père de la révolution cubaine n'aura laissé personne indifférent. Selon l'intellectuel Sanoussi Tambari Jacou, Fidel Castro a aidé les peuples opprimés dans leur lutte pour la liberté. Selon lui, le Niger vient de perdre un grand ami.
Il a beaucoup aidé les peuples opprimés dans leur lutte contre le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme. Pour les autres pays d'Afrique, il a beaucoup aidé matériellement, financièrement et humainement. Ici au Niger, nous avons profité de l'aide de Fidel Castro et de son pays Cuba sur le plan médical, sur le plan agricole et sur le plan scolaire et universitaire. Sous le régime du CMS, il y a eu des médecins cubains qui ont travaillé ici au Niger. Il y en a eu aussi sous le président Barré. Cuba a continué à aider le Niger sous les régimes qui ont suivi et actuellement aussi. Dans le domaine agronomique, Fidel Castro a aidé le Niger. Dans le domaine scolaire et universitaire, il y a eu des Nigériens qui sont allés étudier à Cuba. Le Niger vient de perdre effectivement un grand ami, dont le pays est d'ailleurs représenté diplomatiquement ici dans notre pays.
Propos recueillis par Moussa Hassan. La partie magazine de ce journal à présent, à la suite de 4 jours de tournée dans la région de Difa pour une évaluation de la campagne agro-silvopastorale, le ministre Daouda Marté a procédé ce matin à une réunion de synthèse. Cette réunion s'est déroulée à la salle de réunion du conseil régional de Difa en présence d'autorités administratives et coutumières. Il ressort un déficit agricole et pastoral. On l'écoute.
La campagne agro-silvopastorale 2016 dans la région de Difa s'est déroulée dans des conditions climatiques favorables, caractérisées par des pluies relativement abondantes, régulières et bien réparties dans le temps et dans l'espace. La campagne est rentrée dans sa phase active dans la troisième décade de juillet, sauf dans les zones d'insécurité et le nord-est du département de Ngourti qui n'a connu aucune précipitation. Au terme de cette campagne, le bilan se présente comme suit. Sur le plan agricole, bien que la production qualifiée de bonne à 84%, Difa est déficitaire cette année encore car c'est une région à vocation pastorale. La situation phytosanitaire est caractérisée par des attaques de sauterelles, de punaises et de chenilles pollues de niébé couvrant une superficie totale infectée de 10 003 hectares, de 8 611 hectares traités, soit 86%. Sur le plan pastoral, la situation est caractérisée par des pluies bien réparties dans le temps et de l'espace à l'exception de la zone de Ngourti. Les ruptures de pluie dans certaines localités de la région. Une importante pression parasitaire sur les jeunes pousses en développement. Des attaques localisées de sauterelles. Le pâturage à la fin de la campagne. Cette situation a conduit à une perturbation du cycle végétatif des herbacées et un taux de recouvrement moyen d'environ 52% dans les zones pastorales de la région. Il ressort que la production fourragère est bonne à faible, avec un bilan fourrager globalement provisoire déficitaire de l'ordre de 2 137 875 tonnes de matière sèche. Quant à vos recommandations et doléances, je m'engage à les transmettre au gouvernement et les examiner avec l'attention requise. Il s'agit, entre autres, mettre en place des intrants en quantité et en qualité pour la mise en valeur des sites aménagés. augmenter significativement la quantité de vivres destinés à la vente à prix modéré, demander à la CNPC de prendre des dispositions nécessaires pour éviter les rejets des déchets toxiques préjudiciables à la santé animale, mettre un accent particulier sur la réalisation des stations de pompage et la réhabilitation des puits pastoraux.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le forum de Studio Kalangou présenté par Amadou Moumouni.